c'est un bassin enchanté qui frémit sous la lumière. De l'eau. Il y a de l'eau partout, avec des fleurs là qui s'ouvrent et se ferment. Vient le jour, puis le soir. L'onde clapote. Les nuages glissent et le soleil répand son or sur l'infini du monde. On dirait que ça bouge. Et pourtant, la toile est immobile. C'est qu'un homme, un peintre, se bat pour la mettre en mouvement. En 1914, tandis que le monde s'embrase sous le feu de la guerre, Claude Monet croit dans le pouvoir des fleurs. Seul dans son atelier, il peint. Il s'acharne comme un fou. Il poursuit la lumière, il cherche la couleur. La toile grandit et devient gigantesque. Monet, peintre magicien, obsessionnel du nénuphar, passe 40 ans de sa vie à peindre les nymphéas qui poussent dans l'étang de son jardin. Il les peint le matin, le midi, le soir. Oh, mamma mia! Jusqu'où va-t-il aller? C'est une aventure pleine de rebondissements, d'amitié, d'eau et de botanique. Voici l'odyssée d'une œuvre sans nul autre pareil qui a failli ne jamais voir le jour. Voici l'odyssée des nymphéas de Claude Monet. Avril 1883. Claude Monet, 43 ans, barbe grisonnante, sillonne la campagne normande.
Une bouse de vache? Oh non, c'est pas vrai!
Ah ah, les petits cadeaux de la nature! Le regard plongé dans le lointain, il est à l'affût. Non pas d'un paysage à peindre, non, mais d'une maison. Et tandis qu'il longe la Seine, Claude rumine.
Cette exposition a été un four! Une catastrophe!
Il est vrai, hélas, que les toiles de sa dernière exposition, bon, ne se sont pas très bien vendues.
Ah ça, on peut pas dire qu'elles soient parties comme des petits pains. Hein.
Bah ça risque pas, c'est des peintures! Ouais, bref. Le soleil est au zénith lorsqu'il découvre, à la sortie du petit village de Giverny, une longue maison en crépi rose, entourée d'un vaste jardin, non loin d'une rivière.
Ah, ça c'est pas mal.
Bingo! Son marchand, Paul Durand-Ruel, paye le déménagement et le loyer.
Youhou! À la Monet!
Monet, amoureux fou, peut enfin aménager avec Alice Ochédé, sa nouvelle compagne. Ils réunissent à eux deux 8 enfants, tous nés de leurs précédentes unions. Bon, ça jase un peu, mais tu sais ce qu'on dit. Tribus nombreuses, tribus... Soyeuse? Tumultueuse? Oh mais non! Tribu joyeuse! Monet est peintre, alors il peint. Enfin, il essaye, hein, parce qu'il a du mal. Il doute. 20 fois, il saisit son pinceau, puis il le repose. Et lorsqu'il arrive à terminer sa toile... Souvent, il les détruit. Pour trouver l'inspiration, Monet voyage. Oh, ça tombe bien! C'est la grande époque des chemins de fer! Depuis peu, les trains à vapeur sillonnent la France à toute berzingue! Tchou-tchou! Bah quoi? J'ai pas le droit de faire le train? En Bretagne, Monet peint dans un corps à corps intense avec les éléments.
Et maintenant, nature chérie! Joue! Ah, ah non! Ma brosse! Et ma palette!
Oh purée! Le vent souffle si fort qu'il lui arrache son matériel des mains! Hé, hey, Claude! Attention! Votre cheval! Hé! Hey, chevalier! Oh, je vous ai bien eu! Entre les tempêtes, apparaît toujours un petit coin de ciel bleu. À force d'acharnement, Monet impose enfin sa pointure. Ah bon? Tout le monde fait du 42? Oh mais non, sa peinture! Il impose sa peinture. On parle de ses toiles partout, on les admire et surtout on les achète. Youpi! Fini les années de votre vie! Bon, et question création, comment ça se passe? Monet, ces derniers temps... peindrai de l'eau.
Oui, de l'eau, avec de l'herbe qui ondule dans le fond.
Waouh, pas mal le petit effet aquatique.
L'eau, c'est un vieux rêve qui le hante. Monet, on a passé des heures, des jours à observer les moindres clapotis de l'onde. L'eau, tel un miroir, reflète le ciel, la lumière, les nuages. Et ça, Monet, ça le fascine. Même si, hélas, c'est diablement difficile à représenter.
Ah, je ne fais que gratter et crever les toiles. La pâte me dégoûte. Elle me torture.
Oh bah Claude, oh, faut pas vous mettre dans cet état. Prenez plutôt un petit verre d'eau.
Ah bah très drôle, hein. Et puis après quoi? Vous allez dire que je suis de mauvais poil? Comme un pinceau?
Non, non. Alors ça, alors là, pas du tout, hein. Je n'y avais absolument pas pensé, hein.
Allez, on continue. Pour se reposer de l'eau, Monet plonge ses mains dans la terre. Il transforme son jardin de giverny. Le bonhomme. Oh, la passion des fleurs.
Semer des tulipes, planter des bulbes d'iris, des pivoines, des dahlias, des hortensias. Youpi! Je veux voir les coquelicots éclater entre les herbes hautes. Faites pousser une forêt de fleurs.
Partout jaillit du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Oh, la pupille se régale.
Monet, comme ses plantes, prend racine. On dirait qu'il a trouvé son centre du monde, un endroit d'où il peut voir et regarder.
Jean, viens ici, mon fiston.
Hey, tu ne trouves pas que ça fait du bien de contempler un peu de salade?
À Giverny, Monet et son épouse Alice reçoivent tous leurs amis. Berthe Morisot, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, mais aussi, et de plus en plus souvent, Georges Clémenceau, l'homme d'État, le député, le journaliste, l'amateur d'art.
Cet endroit est extraordinaire. C'est un jardin absolument unique.
Les deux hommes, qui se connaissent depuis jolie lurette, se sont perdus de vue, puis retrouvés. Lorsqu'ils déambulent entre les bouillonnements de roses, ils parlent d'art, bien sûr, mais aussi d'un nouveau moyen de transport absolument révolutionnaire, les voitures.
Oh, vous savez ce modèle? Il fait tut tut.
Ah non, Monet, il fait vroom vroom.
Ce dialogue absurde n'a évidemment rien de véridique, mais je n'y connais rien en automobile. La vérité, c'est que Clémenceau est bouleversé par la peinture de Monet. Face à ses toiles, il a l'impression d'apprendre à voir. Vraiment voir.
Votre pinceau révèle des secrets que le monde voudrait garder pour lui. Il n'y aurait rien de plus bête que de vous dire merci. On ne remercie pas le rayon de soleil. Et puis zut, voilà! Je vous aime!
Oh, ça sent la grande amitié ou je m'y connais pas!
Monet poursuit avec passion sa transformation de Giverny.
J'étends mon jardin. De l'eau, je veux de l'eau partout.
En 1893, il achète un terrain de l'autre côté de la route et détourne un bras de la rivière Hept pour creuser un immense bassin. Évidemment, il y fait pousser des fleurs. Des fleurs blanches, exotiques, entourées de grosses feuilles rondes. Des nymphéas. En quelques années, Monet a créé un monde enchanteur qui vibre sous la lumière. Et ce jardin, ah bah dis donc, il ressemble de plus en plus à une œuvre d'art. Oh, ah oui, c'est une toile infinie qui commence dans l'eau et se termine dans le ciel. Une œuvre qui change de couleur au fil des saisons. Il ne reste plus qu'une chose à faire, bah peindre. Son bassin en nymphéa devient une obsession. Monet peint les fleurs sous son petit pont japonais, entouré de saules pleureurs. Il le représente à toute heure du jour et du soir. On pourrait croire qu'il recommence encore et toujours la même peinture, mais non, puisque la lumière change à chaque seconde. En 1910, la Seine déborde et manque de noyer une partie de son jardin. Monet lui aussi se noie, mais dans le chagrin. Claude perd sa femme, puis son fils. Et puis sa vue baisse. Clémenceau tente de lui remonter le moral. C'est sans compter, hélas, sur le monde qui tout à coup se déchire.
1914. La Première Guerre mondiale éclate. Clémenceau, 76 ans, nouveau ministre de la guerre, est sur le front. Monet combat lui aussi, mais dans son atelier. Le peintre, qui est désormais un vieux monsieur, s'est lancé dans un nouveau projet de décoration complètement dingue. Sur des panneaux gigantesques, aussi grands que le monde, il a décidé de peindre l'eau, uniquement l'eau, avec, quelques nymphéas.
Avec un peu de chance, ça fera rouiller les fusils.
Épuisé, les bras en compote, il peint. Sur l'onde transparente, bleue, verte ou violette, il fait danser les herbes et se refléter le soleil. Chaque panneau représente un moment de la journée. Monet veut attraper le temps, il peint l'eau et ça le dévore comme un feu. En 1918, enfin, la guerre est terminée. La France est victorieuse et Clémenceau, un héros. Pour célébrer la paix, Monet décide d'offrir deux de ses grands panneaux à la nation. Il les coupe presto. Il écrit à Clémenceau.
C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire.
6 jours plus tard, Clémenceau découvre, ébahi, cette œuvre sans nul autre pareil.
Mon vieux crustacé, c'est merveilleux. Immergé dans toute cette beauté, je vogue, je flotte. Mon ami, ce havre de paix, il faut l'offrir tout entier à la France.
Ah bon ? Il parle de la série tout entière ? Et pas seulement de 2 panneaux ? Bon. Ouh, c'est parti. Monet s'enferme dans sa peinture. Sa vue ne fait que baisser. Il lutte, épuisé.
Que peut-on encore apporter à l'art, ma vieille carcasse et moi ? C'est au-dessus de mes forces de vieillard.
Clémenceau ne lâche pas son ami. Il le rassure, l'encourage.
Vous tenez bon. Avec un homme qui s'acharne devant sa peinture, il y a de l'espoir.
Chaque fois que Monet flanche, son ami le rattrape.
Mon vieux débris, mon vieux cœur. Je vous aime parce que vous êtes vous et que vous m'avez appris à comprendre la lumière. Peignez, peignez, peignez toujours jusqu'à ce que la toile en crève. Mes yeux ont besoin de votre couleur. Je vous embrasse.
Les années passent. Un jour, Monet annonce qu'il renonce. Clémenceau voit tout rouge et lui retire son amitié. La tempête, heureusement, finit par passer. Monet, vaille que vaille, reprend ses pinceaux. Les panneaux sont prêts, mais le peintre ne veut pas les donner. Jusqu'au bout, il travaille, il retouche. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. En décembre 1926, le jour de l'enterrement de Monet, Clémenceau, appuyé sur sa canne, vacille, mais il tient. Assez pour arracher le tissu noir qui recouvre le cercueil de son ami.
Pas de noir pour Monet. Le noir n'est pas une couleur.
Clémenceau, qui s'est battu comme un lion, a trouvé un lieu pour exposer le travail de Monet. C'est le musée de l'Orangerie, à Paris. On y dispose 8 panneaux, comme le souhaitait le peintre, dans 2 salles ovales. L'œuvre, gigantesque, enveloppe entièrement le visiteur, qui fait bien plus que la regarder. Il nage presque à l'intérieur. Le jour de l'inauguration, ça se presse pas trop au portillon. C'est que nous autres, les humains, n'avons pas toujours de bons yeux. Enfin, disons qu'il nous faut parfois du temps pour comprendre. Monet, comprenait à la fin de sa vie pour le dernier des impressionnistes, a créé la toute première œuvre immersive de l'histoire. Son regard, intensément plongé dans l'eau, a ouvert la voie à tous les artistes du XXe siècle. Oh, franchement, pas mal pour un vieux crustacé. Derrière cet épisode, il y a Delphine Baudet, Fanny Leroy, Al Nuro, Cédric Diallo, Basile Bocquer, Elodie Fiat, Clarisse Horn, les équipes du musée de l'Orangerie et moi, leur grand Besançon. Si tu te rends au musée de l'Orangerie à Paris pour t'immerger dans les nymphéas de Claude Monet, je t'invite à prêter attention aux 2 salles ovales. Leur forme n'est pas anodine. Mises côte à côte, elles constituent un 8, soit le signe de l'infini.
Les Odyssées des musées d'Orsay et de l'Orangerie est un podcast original de France Inter.